France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons au lendemain de l'allocution du président de la République, la ministre du Travail. Intervenez au standard 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Cette allocution était attendue, très attendue. Le président avait fait le choix de rester silencieux depuis le G20 et le chaos du samedi 1er décembre à Paris. L'Arc de Triomphe, on s'en souvient. Cette intervention avait pour but d'annoncer des mesures sur le fond, mais aussi sur la forme, sur la manière de gouverner, de parler aux Français. Alors on va y venir en détail ce matin, mais pour commencer, comment qualifier ce discours? A-t-on vu hier soir à 20h le tournant social du quinquennat, le coup de barre à gauche?
Alors moi je crois que ce qui est très clair, c'est que le président de la République, il a démontré qu'il avait entendu, qu'on avait entendu que oui, il y a une urgence économique et sociale, et que donc il fallait non pas changer de logique pour la croissance, pour l'emploi, pour la valorisation du travail, mais accompagner de mesures sociales beaucoup plus fortes, plus rapides, pour permettre à ceux de nos concitoyens qui sont nombreux, et c'est pas d'hier, c'est pas d'avant-hier, ça vient de loin, mais qui sont en difficulté, les fins de mois sont difficiles pour un nombre important de concitoyens, il fallait accélérer l'accompagnement social, c'est ce qui est fait.
Mais tournant social, l'expression vous gêne ou vous pourriez la reprendre ce matin?
Tournant, ça a l'air de dire qu'on change complètement de cap. Non, le cap c'est toujours la croissance, l'emploi, le travail, qu'on puisse vivre dignement de ce travail, c'est ce qu'ont dit les Gilets jaunes pendant des semaines. Mais par contre, là, forcément, ça, on peut pas réparer 40 ans en 18 mois. Et donc, en attendant, il faut accompagner plus sur le plan social. Et je crois que c'est ça qui a été démontré hier soir.
On va rentrer dans le détail mesure par mesure et surtout sur le SMIC, puisqu'il y a beaucoup de questions ce matin sur le SMIC. Mais un mot sur le style, sur le ton du président, sur le mea culpa du président. Est-ce que vous avez vu, entendu un nouvel Emmanuel Macron?
Moi, j'ai trouvé que le président était courageux, parce que c'est pas facile et c'est pas classique dans les institutions de la Ve République où le président est un peu au-dessus de tout dans nos institutions. C'est pas une question de choix de personne, c'est une question d'institution. Eh bien, il a reconnu, à la fois, il a expliqué ce qu'il voulait faire, mais il a aussi reconnu qu'il y avait des choses qu'on avait peut-être pas bien faites.
Et qu'il avait blessé.
Et que, sans le vouloir, c'était pas son intention, mais il avait pu blesser des gens. Moi, je trouve que c'était courageux sur le plan humain. C'est-à-dire que c'est un président qui montre aussi, d'une certaine façon, son émotion. Il a compris l'émotion des concitoyens. Je crois que c'est bien.
Allez, on y va, Muriel Pénicaud. Sur le SMIC, Emmanuel Macron a annoncé que les salariés au SMIC recevront 100 euros net par mois à partir de janvier prochain. Vous disiez hier, je vous cite, le coup de pouce au SMIC, on sait que ça détruit des emplois, donc ça n'est pas la bonne méthode. Est-ce que vous le dites toujours ce matin?
Alors, deux choses. Le SMIC lui-même concerne donc 1 600 000 personnes en France et là, il y a une revalorisation chaque année. On a aussi baissé les charges. Donc, il va toujours augmenter comme prévu. Mais en plus de ça, ce que le président de la République a annoncé, c'est qu'on allait beaucoup accélérer et augmenter très fortement la prime d'activité. Alors, je crois qu'il faut expliquer peut-être.
Alors, d'abord,
tout le monde ne sait pas ce que c'est.
Alors, d'abord, voilà. On va arriver à la prime d'activité. Mais pour être bien clair, tous ceux qui ont dit le SMIC est revalorisé de 100 euros par mois, c'est faux, vous nous dites.
Non.
Clairement, le SMIC ne sera pas revalorisé.
Les personnes qui sont au SMIC, il y a 2 millions.
Hors l'inflation.
Il y a 2 600 000 personnes en France qui bénéficient de la prime d'activité et qui sont donc au SMIC ou autour du SMIC. C'est-à-dire que pour en bénéficier, il faut deux raisons, il faut deux conditions. La première, c'est gagner entre 500 000 et 600 000 et 1 500 euros, et donc ça autour du SMIC, en dessous et au-dessus. Et la deuxième condition, c'est les conditions de ressources familiales. Si je donne un exemple, quelqu'un, par exemple, un célibataire, en décembre 2017, il va gagner en tout 1 307 euros, y compris la prime d'activité. Et là, en janvier, il va gagner les 1 210 euros du salaire net payé par les entreprises, le SMIC payé par les entreprises, et en plus payé par l'État, 220 euros de prime d'activité, donc il aura 1 430 euros. Il va gagner plus de 100 euros.
Je voudrais juste qu'on soit clair, parce que malheureusement, les chiffres sont têtus. Le SMIC aujourd'hui en France est de 1 185 euros net environ.
Il était de 1 174 au 1er janvier, et il passera à 1 210.
On comprend pas. Si. Le SMIC au 1er janvier va augmenter de 1,8% pour être clair.
Le président de la République a parlé des personnes qui sont au SMIC et autour du SMIC. Eh bien, il y a une partie qui est payée par les entreprises, qui est le SMIC classique.
Qui n'augmentera pas.
Mais si, il augmente.
De 1,8%.
Mais c'est énorme.
Oui, mais c'est l'inflation.
C'est la plus grosse.
Il n'y a pas de coup de
pouce. C'est la plus grosse augmentation depuis 13 ans.
J'entends bien.
Dites pas que c'est rien.
Madame la ministre, est-ce qu'il y a un coup de pouce au SMIC?
Mais c'est pas ça. Mais non, on va beaucoup plus qu'un coup de pouce. C'est beaucoup plus qu'on
fait. C'est la prime d'activité.
La prime d'activité concerne beaucoup plus de gens que ceux qui sont juste au SMIC. Parce que sinon, on nous dirait, ah oui, mais moi, je suis au SMIC plus 30 euros, je fais pas mes fins de mois non plus. Et ça, c'est vrai. C'est difficile. Si on a le logement, le transport, les enfants, les parents, qu'on habite loin de la ville. Enfin, tout ça est vrai. Et donc là, on va plus loin que ce qu'aurait fait un coup de pouce traditionnel. C'est beaucoup plus massif, ce qu'on fait. Puisqu'on dit pas simplement pour les personnes au SMIC, mais pour 2 600 000 personnes qui sont autour du SMIC et en plus ont des conditions familiales difficiles, là on va augmenter, alors pour le coup, de 100 euros, et donc qu'ils auront en plus de la revalorisation du SMIC. Donc en fait, on va beaucoup plus loin qu'un coup de pouce. C'est si je vais prendre un autre exemple, parce que je crois qu'il y a beaucoup de cas comme ça, quand vous avez deux personnes au SMIC dans le couple, les deux conjoints sont au SMIC et il y a deux enfants. Eh bien, ils vont avoir 2785 euros à eux deux, mais dont 365 de prime d'activité. La prime d'activité, c'est l'État qui le paye. C'est donc la solidarité, c'est l'impôt.
Et ça, vous avez
SMIC
accéléré.
Lui-même, c'est les entreprises. Eh bien, on rajoute. Pourquoi on fait pas pour le SMIC? Parce que si on pénalise les entreprises, la moitié des emplois, ils sont dans les petites et moyennes entreprises. Donc l'artisan, le coiffeur, qu'est-ce qu'ils vont faire si on augmente brutalement le SMIC? Ils vont faire quoi? Ils vont augmenter les prix, il y aura plus de clients, ils vont licencier, ou bien déjà il y en a qui n'arrivent pas à se payer. En revanche, on a entendu qu'il y a beaucoup de salariés qui ont du mal à faire les fins de mois et on veut encourager ceux qui travaillent. Et du coup, au lieu de dire aux entreprises, faites quelque chose qui va détruire l'emploi, on leur dit, on fait la revalorisation du SMIC et en plus, l'État, il ajoute ses primes d'activité et la baisse des charges. En tout, ça fait 100 euros par mois.
Question concrète.
100 euros par mois, je rappelle juste, ça fait 1200 euros par an.
Oui,
net,
c'est notable.
C'est net,
c'est notable.
Après les impôts, les charges,
mais,
etc.
Mais pour bien comprendre, si moi je suis au SMIC et mon mari gagne 200 euros de plus que moi, est-ce que je reçois les 100 euros?
Vous recevez la prime d'activité, absolument. Alors, c'est comme on tient compte de la situation familiale, par exemple, si vous avez des enfants, la prime d'activité sera plus importante. Parce que la prime d'activité, c'est fait pour les personnes qui ont des revenus très modestes, du travail, et qui en même temps ils peuvent avoir une situation familiale. Bon, par contre, si votre mari ou votre femme, un jour, un homme ou je sais pas quoi, bref, vous m'avez compris, si il gagne 4000 euros, là, vous n'aurez pas la prime d'activité. Parce qu'il n'y a pas de raison que la solidarité aide un couple qui
n'a pas
de problème.
Donc ce n'est pas individuel, c'est le couple qui est pris en...
C'est le
couple, ménage.
C'est la famille.
C'est la famille.
Et pour les petits salaires, Muriel Pénicaud, qui sont au-dessus du SMIC, la personne qui gagne 5-10% de plus, qu'est-ce qui va se passer?
Non, la même chose. La prime d'activité, vous l'avez jusqu'à, si vous êtes célibataire, jusqu'à 1600 euros. Et si vous êtes dans un couple, c'est 2800 euros. Donc, en fait, c'est ça, la prime d'activité, elle ne vise pas juste les personnes au SMIC. Parce qu'on l'a bien vu toutes ces semaines-là. Même si on est SMIC et un petit peu quelque chose, c'est quand même, ça peut être très difficile. Donc la prime d'activité, elle va plus loin. C'est vraiment les travailleurs à revenus modestes. C'est les classes populaires, c'est les premières classes moyennes. Et je crois que c'est tous ceux qui travaillent, qui veulent la dignité du travail, qui veulent, ils veulent pas de l'assistance, ils veulent la dignité du travail, c'est cela qu'on encourage à travers la prime d'activité.
D'accord, donc on le dit clairement pour qu'on comprenne bien, ce n'est pas un coup de pouce au SMIC.
C'est beaucoup plus,
c'est la prime d'activité qui est jouée. Ensuite, deuxième mesure, prime défiscalisée de Noël. Emmanuel Macron appelle toutes les entreprises à verser à leurs salariés cette prime de Noël. Mais est-ce que vous nous confirmez bien ce matin qu'elle n'est pas obligatoire, mais juste recommandée? Si moi je suis chef d'entreprise et que je ne peux pas verser la prime, je ne serai pas sanctionné.
Je vais vous donner un exemple. Là, on a une catastrophe dans le petit commerce, comme vous le savez. 4 samedis, le ministère du Travail, nous finançons le chômage technique, comme on disait, le chômage partiel. Aujourd'hui, c'est 20 000 salariés qui sont concernés. C'est 9 millions d'euros. Et ça augmente chaque jour. Ces petits commerces, d'habitude, ils font 20-30% de leur chiffre d'affaires annuel au moment des fêtes. Là, aujourd'hui, tous les gens sont en train d'aller, au passage, c'est un peu un appel, retournez dans les petits commerces, faites vos courses de fin d'année dans les petits commerces. On est en train d'enrichir les plateformes américaines type Amazon, parce que là, c'est formidable pour eux, et pendant cela, on tue notre petit commerce. Eh bien, le petit commerce qui, déjà, est en mode survie depuis quelques semaines, je suis désolée, il va pas pouvoir payer la prime, il voudrait déjà garder ses salariés.
Donc ce n'est pas obligatoire.
En revanche, pas obligatoire. Par contre, certains avaient demandé que puisse y avoir un geste immédiat. Il y a pas mal d'entreprises qui ont dit qu'elles étaient prêtes à le faire, mais au moins que ces salariés-là puissent l'avoir tout de suite.
Le grand geste pour les retraités maintenant, c'est l'annulation de la CSG pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros par mois en 2019. Vous augmentez donc le seuil, avant c'était 1200 euros. Combien de personnes vont bénéficier de cette mesure-là?
Alors, je ne sais pas vous dire, je pourrais vous dire tout à l'heure dans la journée, faut que je donne jamais un chiffre dont je ne suis pas parfaitement sûr, donc je pourrais vous le donner tout à l'heure, mais ce qui est certain, on l'a vu hein, tous ces mois-ci, je pense que la plupart des... D'abord, la hausse de CSG, c'était pas que pour les retraités, c'était pour tout le monde. Mais c'est vraiment un appel à la... C'est toujours un appel à la solidarité. On a besoin d'aider. C'est important d'investir dans l'école pour que nos enfants réussissent. Il y a une inquiétude terrible des Français aujourd'hui. C'est que presque tout le monde pense que nos enfants vont bien moins vivre que nous. Donc il faut une solidarité intergénération. Mais le déclenchement qui se faisait à 1200 euros a été considéré, on l'a entendu, on l'a vu par beaucoup de gens comme trop injuste ou trop bas ou trop difficile.
Donc vous avez relevé le seuil.
On relève le seuil à 2000 euros net pour une personne. Donc ça va redonner, je dirais,
du souffle.
Et puis je crois que, par contre, faut pas perdre l'idée de la solidarité intergénération. C'est la fraternité, c'est aussi ne pas laisser que des problèmes à nos successeurs, mais à nos enfants, à nos petits-enfants, de leur permettre le pied à l'étrier. C'est aussi ça, la solidarité.
Madame la ministre, beaucoup d'annonces sociales hier par le président de la République, c'est très clair. Tout cela a un coût. Est-ce que vous pouvez nous donner ce matin votre chiffrage, combien tout ça va coûter?
Alors, il y a le coût pour l'État, et puis est-ce qu'on n'a pas encore vu ce qui va se passer dans les entreprises?
Le coût pour l'État,
alors,
déjà.
Le coût pour l'État, c'est une dizaine de milliards d'euros, donc c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est un énorme accompagnement social.
Où vous trouvez l'argent?
Eh bien, on va avoir les débats, donc il va falloir revoir la copie du budget 2019 qui était en cours de discussion au Parlement, ça c'est clair. Il y a toute une série de pistes, donc ça je ne vais pas les dévoiler maintenant parce qu'elles n'ont pas encore été annoncées. Mais évidemment ça a été travaillé. Mais c'est des choix, vous savez, il n'y a pas, comme on disait, de planche à billets. C'est-à-dire que l'État ne crée pas l'argent. L'argent, il vient des richesses produites par les entreprises, par l'activité économique, et il vient de la solidarité. Donc, à un moment donné, on va faire des choix, c'est-à-dire que les 10 milliards d'euros qu'on met en accompagnement social, oui, on va des choix. Mais je crois que là, vous savez, c'est tout l'équilibre de l'économique et le social. Nous, on est en train de favoriser la croissance. On a eu 0,4% de croissance au troisième trimestre. Là, on a créé des emplois. Vous savez que les emplois qu'on a créés depuis un an, c'est l'équivalent de toute la population de la ville de Rennes. Donc ça, c'est en route. Mais le temps que c'est des effets, il faut vraiment accompagner chacun. Et donc, ça va être des choix qu'on va faire dans le budget.
Et donc, on va s'asseoir officiellement sur la règle des 3% de déficit. On va les dépasser.
Alors, le budget était prévu en dessous des 3%, donc maintenant, il faut qu'on regarde exactement où ça fait.
Dominique Seux nous disait que ce sera autour de 3,5%, qu'on va la passer, la barre.
Mais écoutez, chaque jour, on va en parler dans quelques jours. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que tous les Français comprennent ce qu'on est en train de faire, et après, on va parler du budget. Mais je voudrais dire aussi pour les salariés que c'est pas tout. C'est très important de comprendre que il y a, même dans les entreprises, c'est pas tout. Moi, il y a des négociations de branches professionnelles et d'entreprises qui démarrent. Moi, j'ai appelé depuis plusieurs jours les branches et les entreprises à accélérer leurs négociations de salaire, qui sont en plus de tout ce qu'on a dit, parce que je crois qu'il faut une dynamique sociale et économique très forte.
On passe au standard pour ouvrir le dialogue avec les auditeurs de France Inter. Bonjour Fanny.
Bonjour.
On vous écoute, vous avez la parole, soyez la bienvenue.
Eh bien, merci de me donner la parole. Voilà, Madame Pénicaud, ce que je vais soulever. Il y a 8,8 millions de personnes précaires en France qui sont en dessous du seuil de pauvreté français. Là-dedans, j'inclus les gens au RSA, les toutes petites retraites et les gens aux ACEDIC. Ce que je n'ai pas entendu du tout hier, sur aucun plateau de télé, dit dans la bouche de Monsieur Macron, c'est l'augmentation du RMI, enfin du RSA et des allocations chômage. Moi, j'ai 407 euros de RSA, madame. J'habite dans une zone très, 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 très rurale. Là, je vous appelle de Nantes parce que je suis malade et qu'il n'y a plus de service public là où j'habite. C'est-à-dire que avec 407 euros, j'aimerais bien savoir comment on fait pour exister. Alors, 8,8 millions de personnes, c'est énorme. Et je tiens à préciser une chose qui est très importante. Pour les gens au RSA, quand on est au RSA, tous les 3 mois, 6 mois ou 1 an, nous devons signer ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque. Mmh. Et c'est là où on doit justifier de ce qu'on a fait, de nos malheureux 407 euros. Je demande à toute personne qui touche des indemnités, Madame la Ministre, dont vous, le contrat d'engagement réciproque, il est valable pour vous aussi. C'est-à-dire que moi, on me pressurise, on m'oppresse, on me demande ce que je fais avec cet argent. Le Pôle emploi, moi j'habite dans un village de 410 habitants. Le Pôle emploi le plus près, c'est Carhaix. Ça fait 70 km aller-retour, madame. Un plein sur ma voiture, un 54 litres le réservoir, c'est 90 euros. Quand après, on fait la menace aux gens, qu'est-ce que vous avez fait ces 6 derniers mois? Oh là là, ça va pas, ça va pas. On passe en commission. Et là, si on dit, je n'ai pas pu mettre de gasoil dans ma voiture, ce qui est le cas de bon nombre de mes copines qui ont des enfants, qui ne chauffent plus à l'heure actuelle, qui ne peuvent pas payer des cadeaux aux enfants non plus. Et qu'on nous dit, ce n'est pas un argument. Et que, comme on ne fait plus de suspension complète sur le RSA, et qu'on dit sur un RSA de 450 euros, j'ai accompagné des gens dans ces commissions-là, je sais comment ça se passe, et qu'on dit, on va vous enlever 100 euros de punition, sur 300, 450, ça fait 350. J'avais posé la question à l'époque dans cette commission, et j'avais demandé, de quoi est accusé monsieur X que j'accompagnais?
Fanny, on entend toute la première partie de votre intervention, qui est un témoignage avec des questions et une colère. L'entendez-vous, Muriel Pénicaud, et que pouvez-vous répondre à Fanny?
Bonjour madame. D'abord, vous avez raison, il y a près de 9 millions de personnes en France qui sont en situation de pauvreté, et pour certains de pauvreté extrême. Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté qui a été annoncé par le président de la République, Agnès Buzyn, il y a 2 mois, il y a des éléments, on ne peut pas tout résoudre en un jour, mais il y a des éléments importants. On a revalorisé l'allocation vieillesse, l'allocation handicapée, le RSA, et ça n'est pas suffisant, nous le savons. Simplement, c'est un sujet que il faut prendre dans toute son ampleur. Vous avez évoqué à juste titre le sujet du transport, qui d'ailleurs a été le déclenchement des Gilets jaunes. Et je voudrais dire quelque chose là-dessus. Dans ce que le président de la République a annoncé hier, pour l'instant, l'attention retient surtout ce qui est immédiat, ce qui arrive tout de suite. Mais il a dit aussi, et c'est très important, qu'on allait débattre partout sur le territoire, et il y a notamment les sujets de transport et de logement. Parce que vous avez raison, dans un budget, quand il y a les dépenses contraintes, se chauffer, se déplacer, se nourrir, il reste plus grand chose.
Et
pour
Pénicaud,
ça, Muriel on a des Pénicaud. Pistes. Simplement, ça, c'est pas l'État tout seul qui décide. Pourquoi? Parce que les transports, eh bien, c'est avec les communes que ça se fait, avec les partenaires sociaux, le logement. Et donc, on a ouvert vendredi avec eux des discussions. On va aller le plus vite possible sur ces sujets. Mais oui, il faut aussi progresser sur l'accès au logement, sur l'accès au transport, parce que c'est une partie importante des
Muriel
dépenses
Pénicaud,
contraintes.
Il n'y a pas de recul sur l'ISF. Il ne sera pas restauré. Le président de la République l'a dit très clairement hier soir. Or, une demande de justice fiscale est formulée par tous les Gilets jaunes. Alors, pourquoi n'avoir pas utilisé l'ISF pour payer ces mesures qui vont, vous nous le disiez à l'instant, coûter une dizaine de milliards d'euros?
Alors, 2 choses. Quelle justice fiscale? Et est-ce que l'ISF est le bon outil? Sur la justice fiscale, je pense que en France, on est particulièrement sensible à cet aspect-là. Ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Et le président a annoncé hier 2 choses importantes qui sont passées.
Non, mais sur l'ISF, s'il vous plaît.
Non, mais parce je reviens à l'ISF.
C'était juste l'une des clés de voûte de la justice fiscale et du consentement
dans
à l'impôt.
Dans la justice fiscale, le président.
C'était une clé de voûte.
Je vais répondre sur l'ISF. Je
s'il vous plaît.
Juste ce que le président a annoncé et ensuite je réponds sur l'ISF. Il a annoncé que désormais tous les dirigeants français qui ont des activités en France devraient payer leurs impôts en France.
Oui, ça semble
oui,
élémentaire.
Mais c'était pas le cas. Et alors tous les gouvernements avant l'ont pas fait. Et que toutes les entreprises qui font des profits en France devront payer leurs impôts en France, qu'elles soient françaises ou étrangères.
Mais ça veut dire quoi concrètement?
Eh ben, ça veut dire.
Ça veut dire que Carlos Ghosn, s'il était toujours.
Il paierait en France.
Oui,
enfin,
en
Carlos
France.
Ghosn,
mais
je
ça concerne combien? Quelles sont les autres entreprises que ça concerne? Quels sont les patrons du CAC 40 qui ne payent pas leurs impôts?
Mais c'est pas que le CAC 40. Il y a beaucoup. Il y a aussi des entrepreneurs qui, compte tenu de l'ISF justement, eh bien, ne payaient pas leurs impôts en France parce que l'ISF, par exemple, les entrepreneurs, eh bien, quand vous, je le justifie pas, je trouve ça scandaleux de pas payer ses impôts dans le pays. Bon, mais il y en a qui le faisaient parce que s'ils payaient l'ISF et s'ils voulaient transmettre à leurs enfants, eh bien, à ce moment-là, souvent, c'était la zizanie dans les familles, l'entreprise familiale, hein, parce que un reprenait l'entreprise, donc lui il était exonéré de l'ISF parce que quand c'est l'outil de production, et puis il fallait qu'il dédommage les frères et sœurs. Alors, les frères et sœurs ils payaient l'ISF, alors soit ils payaient pas en France, soit ils payaient en France, mais du coup on augmentait les dividendes, on pressurisait l'entreprise pour pouvoir le payer. Enfin, c'est de la vie réelle dont je vous parle. Moi, je connais bien les entreprises, je connais bien les salariés, je connais bien les associations. C'est toute ma vie. Et je peux vous dire que l'ISF avait des effets pervers. Il répartait.
Mais est-ce que vous admettez, Muriel Pénicaud, c'est Pierre Moscovici, s'il vous plaît. C'est Pierre Moscovici qui le disait à ce micro. Pierre Moscovici disait, c'est un élément, c'est un impôt imparfait. Vous venez d'en décrire certaines des imperfections, mais c'est un impôt qui a le mérite d'aider au consentement général à l'impôt. Or, nous avons aujourd'hui une crise de consentement à l'impôt. N'est-il donc pas dommage de s'être privé de cet outil-là?
Ben moi, je vais vous dire ma conviction depuis 18 mois, et c'est vrai sur chaque comportement de loi, il faut pas. Moi, je crois à l'intelligence des Français, et je crois que les symboles, ça suffit pas. Il faut la réalité, il faut le droit réel, il faut le droit formel. Oui, là, on va taxer, et on va. Il y a eu des mesures prises il y a quelques semaines aussi sur l'évasion fiscale. On met le paquet sur l'évasion fiscale, que ça soit des individus dirigeants, que ça soit des entreprises. Eh bien, ça va avoir un effet beaucoup plus grand pour financer les mesures. C'est juste. Et par ailleurs, sur la fiscalité, dans les débats locaux qu'on va avoir partout sur le territoire, on a dit qu'on mettait à plat aussi la fiscalité. Donc, encore une fois, il y a ce qu'on fait à court terme, ce qu'on va faire dans le débat. On pourra débattre de tout, mais je crois que pour que le consentement à l'impôt, il faut non seulement qu'il soit symboliquement juste, mais il faut aussi qu'il soit efficace. Le but de l'impôt, c'est de redistribuer de l'argent.
Madame la ministre, comment vous allez forcer les chefs d'entreprise du CAC 40 et autres à payer leurs impôts en France? Qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure de rétorsion s'ils ne le font pas?
Ah ben ça va être prévu dans la loi, mais je peux vous dire que une fois qu'on prend cette décision, il y a toute une série de mesures. Donc on va les préciser dans la loi, mais il n'y a pas
Donc on vérifiera dans un an, dans deux ans, que tous les patrons payent leurs impôts en France.
S'il y a une activité en France, qui réside en France, les impôts doivent être payés en France. Et si il y a des profits en France, alors c'est vrai pour les profits en France, il faudra que l'entreprise paye ses impôts en France.
Et ça, c'est vrai pour Amazon, les GAFA
Amazon,
et tout le monde.
Et n'importe quelle entreprise française.
Il n'y aura plus de distinction numérique ou autre. C'est pour tout le monde.
Pour le numérique, vous savez qu'on est en train d'essayer de se battre pour le faire au niveau européen. Parce que
oui, mais
le
c'est compliqué. Donc, Bruno Le Maire a dit ici, en France, pour commencer.
Mais on avance sur le plan européen et on va avancer plus vite en France.
Hervé est au standard. Hervé qui nous appelle de Quimper. Soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame la ministre. Bonjour à France Inter. Je suis chef d'entreprise, j'ai une petite entreprise avec 10 salariés.
Oui.
Le président de la République nous sollicite les entreprises privées pour donner une prime de 1000 euros. Qu'est-ce que l'État va faire pour ses salariés? Est-ce que l'État va montrer l'exemple? Est-ce que les collectivités locales vont montrer l'exemple et verser une prime de 1000 euros à ses salariés?
Merci Hervé pour cette question. Muriel Pénicaud.
Alors, on n'a pas proposé pour l'instant de prime de 1000 euros. C'est venu de différents côtés, une proposition. Avec les partenaires sociaux, on est en train de regarder, depuis vendredi, on est en train de regarder si on peut encourager, au-delà du 1er janvier, d'avoir des primes sans que l'entreprise n'ait ni de charge, ni le salarié, ni de charge, ni d'impôt dessus. À plus court terme, ce qu'annonçait le président de la République, c'est une réponse à des demandes de beaucoup d'entreprises qui disaient notamment les petites et les moyennes, qui disaient l'intéressement participation, avec la loi PACTE, peut-être qu'on le mettra en place, mais c'est plus long, c'est plus lourd. Et en attendant, on est prêt à donner quelque chose en fin d'année. Et là, si vous donnez quelque chose en fin d'année, ça sera exonéré de charges sociales et d'impôts pour vous comme pour le salarié.
Et pour les fonctionnaires, donc, demandez Hervé.
Alors, les fonctionnaires,
c'est... Que compte faire l'État pour les fonctionnaires?
C'est un régime différent, parce que là, on a des règles différentes. Mmh. Il y a des choses qui s'appliquent pour les fonctionnaires. Le SMIC minimum, ça s'applique. Et la prime d'activité aussi.
D'ailleurs, donc, la hausse des 100 euros, ça s'appliquera aussi pour les
La prime d'activité, oui. Enfin, dans les mêmes conditions. De ressources de la famille. Parce qu'il peut y avoir un qui est fonctionnaire, l'autre qui est dans le secteur privé. Donc ça s'applique aussi. En revanche, sur les sujets de primes qui sont une prime volontaire, il n'y a aucune obligation pour les entreprises. Donc il n'y a pas plus d'obligations dans le service public ou dans les collectivités territoriales.
Léa ?
Dernière question, est-ce que ça ne va pas être plus dur maintenant, avec tout ce qui s'est passé, de réformer dans les trois prochaines années? Beaucoup disent que c'est la fin du quinquennat, on ne pourra plus réformer. Il y a deux grandes réformes, les retraites et l'assurance chômage. Est-ce que vous maintenez les calendriers qui ont été fixés?
Moi, je crois que
vous dites qu'il faut qu'on prenne plus de temps, parce que c'est trop...
Je pense que mon avis, moi, c'est que c'est pas tellement le temps, c'est que je pense que on a, dans la campagne présidentielle, on est parti des idées des gens. C'est vraiment parti du peuple, des citoyens, et ça fait un programme autour d'Emmanuel Macron, et on est en train de dérouler ce programme qui d'ailleurs commence à produire des résultats en termes de croissance et d'emploi. Mais peut-être et même certainement, depuis 18 mois, on a peut-être été omnibulé de faire pour nos concitoyens et pas assez avec. Et ça, ça change, et ça veut dire qu'on le président de la République l'a montré hier en recevant aussi bien les élus les partenaires sociaux. Il faut que sur ces sujets-là, qu'on aille plus loin dans le dialogue, et surtout sur le terrain. Parce que je pense que sur le terrain, nos concitoyens, ils ont envie d'avoir leur mot à dire aussi. Et donc, dans la manière de faire, je pense que oui, ça va être plus participatif qu'avant.
Muriel Pénicaud, Madame la Ministre du Travail, merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Alors, il est 8h47, Muriel Pénicaud, une question supplémentaire. Je vous la posais tout à l'heure et vous nous disiez qu'il fallait attendre encore un tout petit peu pour avoir le chiffre. La question était combien de retraités vont bénéficier de cette annulation de CSG. Le chiffre, vous deviez l'avoir dans la journée. Vous l'avez en fait maintenant, donc profitons que vous soyez là pour que vous nous le donniez.
Oui, en 2018, il y a 7 millions de retraités qui ont été concernés par la hausse de la CSG. L'annulation de la hausse de la CSG en 2019, qu'a annoncé le président de la République, elle va concerner 3,5 millions qui reviennent au taux antérieur. Donc, c'est-à-dire un retraité sur deux, tous ceux qui sont en dessous de 2 000 euros, eh bien, n'auront plus cette hausse de la CSG.
Merci pour cette précision, Madame la Ministre.